Philippe Zard, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wauquenin.
Philippe Zard, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre conversation autour de l'œuvre d'Albert Cohen. Entamée la semaine dernière, nous avions évoqué alors la question de la langue de Cohen, de l'humour de ses sources, et nous avions même eu le temps de parler de la question de l'amour. La critique des œuvres d'Albert Cohen tourne autour du thème de la judéité depuis longtemps, car Cohen ne cesse d'explorer ce sujet dans ses romans comme dans ses autres écrits et dans ses entretiens où il insiste sur sa propre judéité comme clé essentielle pour comprendre sa vie et son œuvre. L'on évoque parfois le sujet comme point de départ ou comme s'il allait de soi et que les enjeux étaient évidents. Pourtant, la question de l'identité juive et de l'identité tout court est éminemment complexe et dialectique. Les romans de Cohen ne sont pas des romans juifs, ni des romans sur les juifs, mais des romans qui décrivent un monde dans lequel les juifs ont leur place, ont leur part. Comment, Philippe Zard, peut-on aborder cette question du judaïsme et de la judéité chez Cohen? Et comment, tout particulièrement, l'abordez-vous dans cette nouvelle édition chez Gallimard, dans la collection Quarto, dont vous êtes le maître d'œuvre?
Alors, peut-être faudrait-il, c'est toujours intéressant de le rappeler, se souvenir de cette phrase bien connue de Lévinas, hein, qui disait « S'interroger sur son identité, c'est déjà l'avoir perdue, mais c'est encore s'y tenir, sans quoi on éviterait l'interrogatoire. Entre ce « déjà » et cet « encore » se dessine la limite, tendue comme une corde raide, sur laquelle s'aventure et se risque le judaïsme des juifs occidentaux. » Alors, peut-être aussi, à titre de précaution, faudrait-il se rappeler qu'à l'époque où Cohen devient ce qu'il est, eh bien, le mot d'identité n'existe pas dans le sens où nous l'utilisons aujourd'hui. Un mot qui est devenu aujourd'hui comme une sorte de pancarte avec un code-barre hein, que l'on cloue sur la poitrine des individus. On parlait plutôt tantôt de religion, tantôt de peuple, parfois même de race. Et quand on cherchait à définir une expérience intime de l'appartenance, on évoquait l'âme, on évoquait l'esprit. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut resituer Cohen. Il est donc antérieur à cette mode de l'identité que nous avons connue dans les années 60, disons. Alors, qu'est-ce que c'est que la judéité chez Cohen? On pourrait presque en proposer une analyse géologique ou stratigraphique. Il y a plusieurs couches. Il fait d'abord, première chose, il fait partie de ces juifs qui n'ont plus de Dieu, mais qui ont encore une mère, et chacun sait que c'est presque pire parfois. Il y a une donnée, une base affective et émotionnelle absolument non négociable dans l'appartenance de Cohen à la judaïté. Il y a l'expérience, nous avions entendu dans l'émission précédente le métèque de Moustaki, il y a cette expérience de l'étrangeté, hein, qui est accessoirement juive, mais qui est aussi cette étrangeté d'un petit juif venu de Corfou, qui parle le judéo-vénitien, qui apprend le français, donc un étranger dans cette France encore très marquée par l'affaire Dreyfus, hein, et qui va subir d'ailleurs, en 1905, une agression antisémite qui va devenir le sujet de son livre « Ô vous, frères humains ». Donc il y a ces données-là, sociologiques et émotionnelles. Il y a aussi, je dirais, une dimension politique et historique. Cohen, à partir de cette donnée, reconstruit intellectuellement son judaïsme. Et il le fait avec des fréquentations intellectuelles, mais aussi beaucoup avec des livres, avec la Bible, dont il va devenir un très grand lecteur. Bible en traduction, hein, les connaissances judaïques de Cohen sont plutôt des connaissances de seconde main. Et quand on travaille, comme je l'ai fait, sur l'identification des références religieuses dans l'œuvre romanesque de Cohen, on est frappé par deux choses. D'abord, leur abondance. Il y a partout des références à la Bible et même au Talmud dans l'œuvre de Cohen. Et en même temps, leur caractère un peu erratique. Parfois, c'est d'une précision stupéfiante. Et parfois, il y a des énormités, des erreurs hein, qui relèvent d'une invention cohenienne. Et on ne sait jamais si ce sont des erreurs ou des réinventions pures et simples. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre, je crois, la judaïté de Cohen, une base affective non négociable qui fait que Cohen n'a jamais douté, en réalité, de sa judaïté. Et en même temps, un élément de problématisation constant de la judaïté qui va faire qu'il va s'intéresser au texte juif, à l'histoire juive et, on y en reparlera tout à l'heure, au sionisme naissant.
J'ai l'impression qu'il y a comme un art du détournement en général. Je pense à cette tirade dans Manche-Clou, « L'amour est un enfant de Marseille ». Parfois, il suffit d'un écart entre un B et un C, puisque à la place d'incroyable, j'ai lu imbroyable.
Il y a constamment des jeux de mots chez Cohen, constamment ces détournements. Vous avez cité Manche-Clou, je pourrais citer Mariette avec son détournement du Carmen de Bizet, et qui fait effectivement de l'amour un enfant de poème, ce qui est littéralement, d'ailleurs, la quintessence hein, du message cohenien sur l'amour. L'amour est aussi du domaine de la littérature. Manche-Clou disait ailleurs, l'équitation, c'est les bottes, c'est comme l'amour. L'amour, ce n'est pas tes sentiments, ce sont les lettres que tu écris à ta fiancée. Hein. L'amour, c'est les lettres, l'équitation, c'est les bottes. Hein. La substitution du signe à la réalité. Et alors, il y a chez Cohen un art du détournement qui vaut aussi d'ailleurs pour le judaïsme. Quand dans son sermon de la majorité religieuse de Solal, sa bar mitzvah, son rabbin de père, Gamaliel, reprend littéralement des citations bibliques et talmudiques, il les détourne lui aussi, il les écourte et les altère. Exemple bien connu. Il y a dans les Maximes des Pères, qui est un texte de la sagesse juive, hein, cette sentence qui veut que si un étudiant talmudique médite la Torah et interrompt sa méditation pour s'attarder devant un bel arbre et dire « Regarde comme ce bel arbre est beau », eh bien, cet étudiant n'aura pas part au monde futur, dit le texte. Bien sûr, c'est une hyperbole, hein, qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Donc, il s'agit d'interrompre son étude pour s'extasier devant la nature. Cette maxime des pères, dans le sermon de Gamaliel, devient anathème à celui qui s'arrête pour regarder un bel arbre. Autrement dit, la question de l'étude est oubliée, et ici c'est tout simplement l'admiration de la nature qui est en soi un péché. C'est un détournement que certains commentateurs, à juste titre, ont appelé presque un détournement gnostique du judaïsme, comme si tout le judaïsme devait résider dans cette hostilité de principe à la nature. Mais voyez, c'est un travail sur des textes que Cohen connaît très bien, mais qu'il détourne de manière absolument délibérée, en l'occurrence.
Alors, cette judaïté, vous venez de le faire comprendre, n'est pas que théorique, s'incarne aussi dans des personnages et des intrigues. Quel choix a fait Cohen pour transmettre les questions qui le travaillent et la vision du monde de cette identité qu'il veut transmettre? Est-ce que la question des femmes n'est pas particulièrement paradigmatique?
Alors, deux choses. Pour ce qui est de la transposition ou le traitement de cette question de la judéité dans l'œuvre de Cohen, je crois que ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que Cohen, tout en s'arrimant très fortement à sa judéité, a tenu absolument à préserver sa pluralité interne. Et c'est comme ça qu'on écrit des romans, d'une certaine manière. Cohen, dès les années 20, avait écrit un article où il était question non pas de l'esprit juif, mais de ce qu'il appelait les esprits juifs. Esprit juif qu'il distinguait entre, d'une part, et je schématise, je résume sa pensée, la volonté de jouissance et de puissance du sémite, de l'homme du désert, l'intransigeance éthique et prophétique de l'israélite, et la lucidité démystifiante du paria. Ce sont trois aspects. Et constamment, Cohen, créant son univers romanesque, eh bien, fait exister ces avatars de l'esprit juif. Par exemple, Solal, lui-même, est lui-même un monde, à lui tout seul. Et il regroupe en lui, en sa conscience, trois cousins, qui sont trois incarnations de l'esprit juif. Saül, le mystique, Nadab, l'intellectuel, Reuben, le banquier, eux-mêmes chacun, d'ailleurs, clivés entre une personnalité diurne et une personnalité nocturne. Ce qui fait que parfois, la mythologie juive de Cohen ça confine à la démonologie. Hein. Il y a un aspect spectral, parfois un peu inquiétant, dans l'imaginaire juif de Cohen. quant à la femme, là, ça, je pense que ça va nous amener à d'autres questions encore, mais je ferai juste cette observation assez curieuse. C'est que la mère qui joue un rôle si capital dans l'œuvre autobiographique de Cohen est évincée presque complètement, pas complètement, mais presque complètement de son œuvre romanesque. La mère de Solal, Rachel Solal, joue un petit rôle dans Solal, mais fondamentalement, le judaïsme, tel qu'il le reconstitue, tel qu'il le recompose dans son univers romanesque, est une affaire d'homme. Et si quelqu'un prend la place de la mère, c'est l'oncle Saltiel, cet oncle maternel, qui est une sorte de père de substitution et de mère de substitution. Ce qui pourra nous amener, si vous le voulez bien d'ailleurs, à envisager justement cette féminité du judaïsme qui est une clé essentielle. Parce que l'univers juif céphalonien est un monde d'hommes. Et pourtant, c'est un monde qui semble tabler essentiellement sur des valeurs essentiellement féminines.
Alors justement, vous écrivez, c'est avec délectation que devant Ariane au Ritz, Solal égrène l'écœurant refrain babouin comme son chapelet de santal. Au moment où il déploie sa théorie de la babouinerie universelle, le voici comme envoûté par le mot. L'exécration prophétique de la violence n'est jamais loin de la jouissance esthétique à la dire et à l'écrire. Qu'est-ce que la babouinerie universelle, Philippe Zahar?
Alors, peut-être d'abord quelques lignes pour s'en rendre compte de la grande tirade du Ritz où Solal pourfend les mythologies sociales et amoureuses. Voici la manière dont il conclut une tirade. « Oh, ce duo continuel parmi les humains, cet écœurant refrain babouin, je suis plus que toi, je sais que je suis moins que vous, je suis plus que toi, je sais que je suis moins que vous, je suis plus que toi, je sais que je suis moins que vous, et ainsi de suite, toujours, partout, babouin, tous. Oui, j'ai déjà dit cela tout à l'heure, votre mari, les rires adorants, les attachés de cabinet, excusez-moi, tous ces petits babouins me rendent fou, j'en trouve à tous les coins en posture d'amour. » Et tout comme moi en ce moment, le grand babouin de la cage parle fort avec des gestes de vitalité, parle en maître à la babouine qui le contemple avec des yeux émerveillés. Il a du charme, dit-elle tout bas à une vieille copine babouine qui s'évente. Il a un sourire si doux. Je sens qu'il doit être très bon au fond. Alors, c'est une des péroraisons de cette extraordinaire diatribe. Et nous comprenons là que pour Cohen, qui jette un regard d'éthologue et même de zoologue sur la société, la babouinerie est une donnée anthropologique, biologique et naturelle. On est en plein darwinisme. On est dans la zoologie des mâles dominants. Et d'ailleurs, autre paradoxe assez piquant, Cohen, qui est si souvent accusé de misogynie, a écrit des pages qui pourraient presque être contresignées par des néo-féministes sur la domination masculine, sur l'abjection de cette adoration de la force virile. Donc, il y a la babouinerie, c'est ce culte de la force qu'il repère partout et qui est l'héritage de notre animalité primitive, dans lequel il voit d'ailleurs ce que le christianisme a décidé d'appeler le péché originel. C'est sa reformulation du péché originel, la tare originelle de l'animalité. Reste que cette donnée, qui est une donnée anthropologique globale, elle devient dans les années 30, elle tente à devenir non simplement une donnée générale, mais un programme politique. C'est le fascisme, puis le nazisme, dont Cohen rappelle avec Freud qu'il n'a eu de cesse que de vouloir restaurer la grande forêt préhistorique et d'abolir la loi mosaïque et le décalogue pour restaurer quelque chose comme une loi de la jungle, la loi du plus fort. Et de Mangetou à Belle du Seigneur, c'est aussi cette méditation politique et métaphysique qui se déploie.
Pourquoi ce morceau de Mozart, Philippe Zarre ?
Alors, eh bien parce que Mozart est très présent dans Belle du Seigneur, parce qu'il fournit à travers cet air de chérubin ce qui est appelé l'air national de l'amour, l'hymne national de l'amour. Et ici, bien sûr, il y a un souvenir, une réminiscence tout à fait claire de Proust et d'un amour de Swann dans ce passage. Alors, Ariane trouve bon à certains moments de l'histoire sentimentale qu'elle a avec Solal de se servir de ce passage pour annoncer finalement ses intentions amoureuses. Et très vite, ce qui est au départ une sorte d'émulation de l'amour devient un rituel abrutissant et mécanique. Et cela se termine dans une scène terrible où Solal, n'en pouvant plus, se met à casser tout simplement le gramophone qu'il ne supporte plus. C'est le symptôme du dessèchement et de la mécanisation de l'amour et de la mélodie amoureuse en ritournelle.
Alors revenons à cette virilité de l'Occident que nous avons évoquée avant ce morceau magnifique chanté par Cecilia Bartoli. Cette virilité de l'Occident s'oppose à une féminité que Cohen place du côté du judaïsme, vous en avez parlé. Cette féminité juive a été souvent un argument antisémite. Comment Cohen s'y confronte-t-il et comment l'antisémitisme qu'il met en scène et combat par un choix multiple d'artifices littéraires se déploie-t-il dans son œuvre, Philippe Zarre ?
Alors, je vais essayer d'être un peu schématique, si vous le permettez, en disant que ce qui unifie finalement le roman cohénien, c'est une réflexion, et Belle du Seigneur en particulier, c'est, on vient d'en parler avec Mozart, une réflexion sur l'amour. Mais l'amour entendu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'amour au sens sentimental du terme, l'amour au sens politique du terme, c'est-à-dire la fraternité, et l'amour au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire le salut. Et j'ai osé écrire que Belle du Seigneur était l'orchestration discordante de ces trois conceptions de l'amour. Et au fond, l'Occident est porteur de cette promesse d'amour. Il l'est porteur parce que il est héritier du christianisme et du judaïsme, et donc de l'idéal de l'amour du prochain. Amour du prochain qui est, et Cohen le rappelle avec une forme de fierté, qui est inscrit dans le Lévitique, et dont le christianisme va faire la clé de voûte de sa théologie. Donc, comment aimer son prochain ? Peut-on aimer son prochain ? N'est-ce pas là une illusion ? Comment aimer sa prochaine, aussi, qui est parfois vraiment trop proche, comme il est dit dans Belle du Seigneur ? Comment faire pour que le rêve de l'amour universel est un corps. Et alors là, je dirais qu'il y a deux voies qui se proposent, et je vais me permettre là encore de simplifier, il y a une voie masculine, une voie féminine. Et dans la fantasmatique cohénienne, dans son scénario romanesque, on pourrait dire assez schématiquement que théologiquement, le judaïsme est plutôt du côté d'une théologie masculine, et le christianisme plutôt du côté d'une théologie féminine. C'est-à-dire que le judaïsme et le christianisme ont en commun un horizon de réconciliation, de tendresse, de paix et d'amour qui est inscrit dans leur texte fondateur. Mais là où le judaïsme tente de s'acheminer vers ce programme par la loi, une loi globalement masculine et disons-le, pensons à Gamaliel, le rabbin un peu castratrice, le christianisme a espéré, en tout cas, parvenir à la même fin par une voie féminine. Et quand on y songe, tout le scénario initial de Belle du Seigneur, hein, celui qui fait que Solal va se présenter en vieillard juif et va déclarer sa flamme à une belle chrétienne, tout ce scénario-là est lesté d'un fantasme messianique. C'est le rêve de la réconciliation entre la loi judaïque et l'espérance chrétienne. Il se trouve, bien sûr, nous le savons, parce que nous avons lu Belle du Seigneur, que cette espérance prophétique et messianique va se briser à la fois sur la relation humaine et sur l'histoire, puisque Belle du Seigneur, c'est le récit de l'avancée lourde et inexorable de la barbarie néo-païenne.
Est-ce que c'est pas trop schématique dans la mesure où je m'oppose souvent à cette opposition très paulinienne d'un christianisme de l'amour contre un judaïsme de la loi, parce que dans le judaïsme lui-même, la loi est la loi de l'amour. C'est-à-dire que c'est parce que le judaïsme est conscient que l'amour est compliqué, fragile, complexe, que l'amour lui-même a besoin de loi. Et donc, est-ce que Cohen n'a pas été jusqu'au bout de ses études du judaïsme et il ne s'est pas aperçu que dans le judaïsme lui-même, il y avait déjà un essai de réconciliation entre la dimension masculine de la loi et féminine de l'amour, et cela se passait dans le Talmud lui-même, puisqu'on peut dire que le Talmud, justement, c'est comment, à chaque fois qu'il y a une loi qui peut être masculine, selon cette formulation, il y a un récit, une narration, une Haggadah, qui est justement la dimension féminine, comme dit Bialik, et que le judaïsme, c'est l'articulation du rite et du mythe, du rythme, comme j'aime le dire. Et donc, est-ce que si Cohen avait été plus informé de la pensée talmudique, est-ce qu'il aurait écrit le même roman? C'est un peu difficile, mais je crois que c'est une question importante, Philippe Zarre.
Alors, je dirais, alors, j'ai bien dit que, premièrement, l'amour du prochain est inscrit dans le texte même de la Torah, et que Cohen le rappelle plusieurs fois. Et que, par ailleurs, l'horizon, eh bien, en effet, l'horizon commun du christianisme et du judaïsme. Par ailleurs, cette réconciliation de l'amour et de la loi, elle est incarnée dans les romans, notamment par Saltiel. C'est précisément le personnage. D'ailleurs, c'est un judaïsme à la fois très, très fier, très droit, mais vaguement christianisant. Saltiel lit les évangiles en cachette. Il s'agit, comprenons bien, de polarité, plus que d'exclusion. Et c'est précisément... Et vous avez raison de parler de paulinisme, un paulinisme livré à lui-même en quelque sorte. Mais c'est précisément, il y a roman parce que, à un moment, naît l'espérance peut-être d'un accomplissement de la promesse de l'amour sans passer par le détour de la loi. Or, c'est précisément ce que Cohen stipule comme impossible. Donc, vous êtes d'accord, d'une certaine manière, il ne peut pas y avoir d'amour sans loi. Mais c'est précisément cette espérance-là qui a peut-être été celle d'un certain Occident.
Très tôt, le sionisme a tenu une place importante dans la vie et l'œuvre de Cohen. L'époque oblige, un sionisme actif dont la genèse est cette double rencontre en 1919 avec le poète André Spire et en 1921 avec Chaim Weizmann. Activité sioniste qui va se doubler d'une activité littéraire, la création de la revue juive avec un comité prestigieux que réunit Cohen, Philippe Zarre.
Comité très prestigieux en effet, puisqu'il s'agit dans ce comité de rien de moins qu'Albert Einstein, Sigmund Freud, Charles Gide, l'oncle d'André, et d'autres encore. Donc en effet, c'était une ambition extraordinaire. De concert donc avec le mouvement sioniste mondial et les éditions Gallimard, de faire naître un véritable débat intellectuel juif dans le contexte de la naissance du sionisme. Le premier numéro de la revue juive paraît 2 mois avant l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem. Donc, il s'agit bien de ce qu'a été la formation intellectuelle et idéologique de Cohen dans les années 20. Et le premier numéro de la revue juive est inauguré par une déclaration qui n'est pas signée, mais qui est de Cohen, où l'on reconnaît déjà très largement toute sa vision de ce dialogue et de cette aventure juive qu'il va déployer dans son roman. Alors, il y a des éléments qui sont absolument décisifs. Comment dire ? Il s'agit pour le judaïsme européen d'inventer un rapport au judaïsme qui ne soit pas confiné à la synagogue, au culte et au domaine privé. Donc d'inventer une culture juive séculière. Et il se trouve, bien sûr, que le sionisme va permettre de donner forme à cette aventure séculière en laissant entrevoir aux juifs la possibilité d'une sortie du ghetto et de la marginalité. Cohen n'a cessé, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'accompagner ce mouvement de l'aventure sioniste, disons, tout en restant, et c'est aussi un des aspects piquants de sa personnalité, tout en restant relativement à distance des réalisations concrètes et empiriques. Il n'a jamais mis le pied dans cette Palestine mandataire, ni dans l'Israël qui était né en 1948. Pourquoi ? Eh bien, je dirais, pour simplifier les choses, qu'il était fasciné par cette résurrection nationale du peuple juif qui flattait sa dimension épique, son tropisme éthique, éthique et épique, certainement. Fondamentalement, cependant, à titre individuel, il restait assez foncièrement attaché, irréductiblement attaché, à un imaginaire diasporique. Ces juifs, à lui, sont les juifs désarmés, inoffensifs, fantaisistes du ghetto. Ils respectent, mais de loin, le nouvel israélien, le nouvel hébreu qui est en train de naître sur la terre d'Israël, mais clairement, il ne peut pas s'y identifier. Il peut tout juste le célébrer à distance.
Alors, il y a une très grande modernité de Cohen. Le sionisme ne fut pas sa seule activité politique. On sait qu'il a rencontré De Gaulle. Il donne sa démission des cadres de l'agence juive en 1944 et il entre au comité intergouvernemental pour les réfugiés à titre de conseiller juridique. Là au moins, écrit Denise Goyten-Galperin dans un article de 99 intitulé « Albert Cohen et l'histoire, son action politique et diplomatique », là au moins il pourra agir pour apporter une aide concrète aux errants persécutés, les faibles entre les faibles, où se comptent par centaines de milliers des juifs apatrides survivants de la Shoah. Elle évoque ce 15 octobre 1946 où dans le cadre d'une conférence qui réunit les membres du comité intergouvernemental pour les réfugiés, un accord fut conclu relatif à la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés. Il s'agit d'un véritable passeport international assurant aux apatrides un statut officiel reconnu comme les tout passeports légalement délivrés. Ce passeport de 32 pages, c'est Cohen qui en est l'auteur. « Mon plus beau livre », dira-t-il souvent, plus luxueux que le passeport suisse, parfois encore, disait-il, j'en suis plus fier que belle du Seigneur. Comment comprenez-vous cette formule, Philippe Zarre ? N'est-elle pas un signe de l'éthique profonde de l'œuvre de Cohen ?
Assurément, Cohen, qui a un très grand orgueil d'artiste, comme tous les grands romanciers, évidemment, n'a néanmoins pas la religion de l'art. Il place l'éthique explicitement au-dessus de l'esthétique, au point que, au regard, en effet, du soulagement, du réconfort à apporter à des millions de malheureux, ce qui a été l'œuvre de ce passeport, eh bien, la littérature lui paraît presque une entreprise futile ou égoïste. Évidemment, donc, il faut prendre les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles se formulent. Ce n'est pas à prendre littéralement. Il était très fier d'avoir écrit « Belle du Seigneur ». Mais fondamentalement, il reste attaché à cette œuvre humanitaire parce que la littérature, une littérature qui n'aurait pas pour fin, d'une certaine manière, la morale, la loi, l'assistance, le secours ou l'amour, n'aurait aucune justification. Donc, oui, il faut entendre cette parole de Cohen disant que ce passeport pour les réfugiés est sa plus belle œuvre. «
Merci Philippe Zarre pour ces 2 semaines de conversation autour de l'œuvre d'Albert Cohen que vous nous avez fait découvrir ou redécouvrir, en tout cas que vous nous avez donné envie de lire ou relire. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui et la semaine dernière, Albert Cohen, Solal et les Solals, les 4 romans, Solal, Manche-Clou, Les Valeureux et Belle du Seigneur, avec vos très précieuses et instructives présentations, notes et commentaires, une œuvre drôle, profonde, énigmatique et inattendue, un très bel objet, 1664 pages d'un vrai bonheur de lecture jubilatoire. Merci encore Philippe Zarre.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Stéphane Desmonts. À la réalisation, Rafik Zénine, Coltouv, Leitraut. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.